14h30, 16h, votre rendez-vous avec les stars, la tête dans les étoiles, Laurent Boyer sur RTL.
C'est Yann Kefelec, évidemment, qui a cette voix incroyable, hein, cette façon d'envoyer, de prononcer, et c'est vrai, ce timbre de voix étonnant. Il a raison, Philippe Courbet, là, à l'instant. Vous avez une voix de radio, Yann Kefelec.
Franchement, j'ignore si j'ai une voix de radio. J'ai beaucoup travaillé pour ne plus avoir cette voix, parce que je la trouve un peu trop reconnaissable. Et surtout, moi, je déteste m'écouter parler. Et j'évite de réentendre mes émissions de radio. Mais bon, j'entends plutôt des compliments sur ma voix, ce qui compense la mauvaise idée que j'ai d'elle.
Vous pourrez écouter le podcast d'RTL, parce que vous pourrez vous réécouter ad libitum, là, en fait. Parce que cette émission, on la réécoute 24h sur 24 sur RTL.fr, comme on veut. On salue votre femme, tiens, j'en profite tout de suite, comme ça, ça s'est fait.
Bonjour Servan.
Bonjour Servan, voilà. C'est mignon, non? C'est bien, j'aime bien ça. Je sais qu'elle nous écoute, vous avez raison. Yann Kefelec, les sables du Jubaland, chez Plon, est arrivé il y a un petit mois, on va l'évoquer. Vous allez faire cette balade du côté de la Somalie avec nous dans des conditions extrêmement difficiles. Parfois, on va en parler dans un petit instant. Yann Kefelec est votre invité. Quel est son parcours? Comment devient-on auteur à succès? Vous saurez tout d'ici 16h.
RTL. La tête dans les étoiles. Écoutez.
Avec un extrait de son tout de suite pour Yann Kefelec, c'est Monsieur Batignol de et avec Gérard Jugnot, on en parle après.
Bonjour madame.
Monsieur.
Je cherche les Cohen.
Vous êtes de la famille?
Non, pas du tout.
Et qu'est-ce que vous leur voulez?
Je voudrais parler avec Monsieur Cohen, c'est un ami.
Un ami?
Bah, disons plutôt une relation de relation d'un voisin qui habite dans mon immeuble rue Civelle.
Entrez.
Ils habitent bien l'immeuble?
Pas en entier. Les parents Cohen sont au Veldiv.
Au Veldiv?
Eh oui, au Veldiv.
Il n'y a pas de course de vélo en juillet.
Ils ont été arrêtés il y a 3 jours et on les a parqués là-bas. Et juste avant de partir, ils m'ont laissé ça. Mais moi, je ne peux pas les garder.
Ah non, moi non plus. Je ne suis pas venu pour ça, j'en ai déjà un dans ma cave.
Juif.
Bernstein, c'est pas breton.
David ou Simon?
David ou Simon?
Bernstein.
De Bernstein, il y en a des tonnes.
Rue Civelle, ça m'étonnerait.
Tous ceux que je connaissais sont partis.
Ah, sauf celui qui est dans votre cave.
Écoutez, madame, je suis venu ici pour voir si les parents de Simon s'y trouvaient avec leur cousin Cohen. Ils ne sont pas là, c'est tout ce que je voulais savoir.
C'est quand même deux fillettes à votre ami.
Quel ami?
Cohen.
Mais je connais pas ce monsieur.
Nous, on vous connaît, c'est notre cousin.
Je suis pas folle.
Je ne suis pas votre cousin, je ne suis pas juif, je suis français depuis bien longtemps.
Nos parents aussi?
Je peux pas les garder. J'ai un poulet qui loge au-dessus de chez moi.
Ben moi, j'ai un futur jeune collabo en chef.
Ben, ça vous empêche pas de vous occuper du gamin.
Chacun sa croix, madame. Au revoir.
Quel beau film. Qu'est-ce que c'est joli, ce film. Avec Gérard Jugnot 2 et avec Gérard Jugnot, évidemment. cet extrait est incroyable. Alors, Yann Kefelec, un des romans de votre père, paru en 1944, s'intitulait « Mort d'un salaud » et racontait le journal fictif d'un collaborateur. Mot qui vient d'être prononcé, là, à l'instant,
oui,
par la dame.
Fait, oui.
C'était un roman qui a bien fonctionné.
C'est un roman absolument génial, à mon avis. C'est un des romans méconnus de mon père, publié à la fin de la guerre, qui se déroule en 1942. C'est en effet quelqu'un comme ça qui est en pleine magouille avec... ça se passe à Marseille, qui est en pleine magouille avec les Allemands. Et pour mon père, c'était l'étude d'un caractère un peu maléfique, à la fois très complexe, à la fois très en prise avec la sensibilité française et en même temps complètement intéressé par les privilèges représentés par les Allemands.
Et dans le film qu'on vient d'extrait de film de Jugnot qu'on vient d'écouter, Gérard Jugnot recherche les parents d'enfants juifs, évidemment, qui malheureusement les enfants deviendront orphelins parce que les parents ont disparu. Et dans le roman Les Sables de Jubaland, vous voyez un peu la métaphore où on va arriver.
C'est fortiche, on est passé, même passé par mon père.
Voilà, pas mal, hein, qui vient de paraître chez Plon il y a un petit mois. C'est l'histoire de deux adolescents qui s'appellent Raph et Zou, hein, à 18 ans, l'autre à 15 ans, et qui, eux, sont devenus orphelins aussi en raison d'un raz-de-marée, tsunami, vous préférez le mot raz-de-marée, qui a eu lieu en 2004, à ce moment-là, en Somalie. Et c'est l'histoire de ces deux gamins qui sont orphelins, en fait, et qui vont se débrouiller tout seuls, qui vont appréhender la vie. Il y a peu de solutions pour eux. C'est où devenir travailler pour Al-Qaïda, ou aller piquer, être pirate de la mer et faire ce qui se passe sur le golfe d'Aden, d'aller à raisonner les bateaux qui passent au large avec les grands, les mafieux, ceux qui arrivent à se marier et qui ont de l'argent, ou une autre solution, peut-être ce que fera un de vos deux héros, Raph et Zou, c'est enfin l'acculturation, comme disait Rétif de la Bretonne, c'est partir vers le nord, traverser le Yémen, prendre le bus et finir du côté de Paris, en fait.
Oui, l'Eldorado, c'est difficile, voilà, c'est parfaitement résumé, c'est exactement ça.
Au revoir Yann.
Il faut ajouter que Raph et Zou sont deux frères.
Oui, deux frères ennemis.
Ce sont deux frères ennemis, mais également deux frères extrêmement fusionnels. Ils sont ennemis parce qu'entre eux, il y a ce personnage de Dahlia, une jeune jeune fille, infirmière d'une espèce de, d'établissement
chez
bizarre.
Le Périve.
Chez le Périve, tout à fait. C'est le seul, la seule maison en dur de la région. C'est à la fois un dispensaire, une infirmerie.
Il est guérisseur, on ne sait pas trop lui.
Tout à fait, on ne sait pas exactement. C'est une espèce de baroudeur qui a le titre de père et qui exerce le rôle tutélaire de l'adulte sur, ses, sur cette communauté de jeunes livrés à elle-même. Dahlia est enceinte, on ne sait pas duquel des deux frères elle est enceinte, d'où rivalité entre les deux frères, ce qui ne les empêche pas de s'aimer passionnément.
Ça c'est le filigrane évidemment, il y a cette histoire d'amour autour de cette jeune fille, et avec qui partira-t-elle? Enfin bon, ça c'est à suivre, hein. Il faut aller dans le roman. Qu'est-ce qui vous a amené, Yann Kefelec, à nous emmener dans cette Somalie que vous décrivez remarquablement bien? Forcément vous la connaissez, peut-être de Mogadiscio justement, aussi à ces plages qui ont été dévastées, où vivent effectivement des mômes orphelins.
Ah, mais ça c'est le pouvoir du romancier, c'est effectivement, je suis allé en Somalie, je suis allé une fois en Somalie, je suis allé à Mogadiscio, un voyage de presse qui remonte à 30 ans.
Ah bah d'accord.
J'avais trouvé ce lieu féerique, absolument inouï, et dans une désolation, mais désolation à la fois terrible et de début du monde. Quoi. C'est à la fois le paradis et l'enfer. Et dès ce moment-là, j'avais souhaité décrire ces paysages qui sont également des paysages livrés à eux-mêmes, totalement oubliés. Et cependant, pas oublier justement de grandes nations comme les nôtres qui ont des problèmes d'immersion de leurs déchets nucléaires ou domestiques et qui ont utilisé les rivages de la Somalie pour s'en débarrasser. Donc ces jeunes, c'est ça, que l'on traite éventuellement de pirates lorsqu'ils s'emparent d'un cargo, sont des jeunes victimes d'un autre type de piraterie, celle des pays occidentaux qui ne se sont pas gênés pour souiller des eaux absolument
sublimes. Piller la mer. Piller la mer. Les Coréens, les Chinois continuent, les Français, les Espagnols.
Bien entendu.
Y en a eu énormément. Hein.
Donc il est certain que moi, j'ai inversé, si vous voulez, le regard sur la piraterie, c'est-à-dire c'est la piraterie vue de la plage et non pas vue du pont d'un bateau de guerre de la force Atalante en train de protéger, de sécuriser le rail de navigation au large des côtes somaliennes.
Oui, avec peut-être d'ailleurs, pour ceux qui, maintenant vous le savez, depuis que Kouchner a fait quelques déclarations, peut-être de ne pas aller se promener justement dans ce golfe d'Aden, de ne pas y remonter quand on n'est pas journaliste ou quand on n'est pas en mission politique.
Quand on est blanc, une tête de blanc, $1 million, c'est le tarif.
Ah, c'est le tarif.
Et ça peut augmenter si on est effectivement un blanc un peu célèbre, un peu voilà. Mais de toute manière, un blanc à $1 million.
Voilà. Et alors, ça se passe dans les ports au nord. Et là, il y a des gens qui sont enrichis énormément, qui deviennent des chefs mafieux, des chefs de clan, de gang, et qui eux arrivent. Toutes les femmes veulent épouser ces types, ces chefs de pirates de clan pirates.
Il n'y a pas plus sexy qu'un pirate. Une fois qu'il arrive sur la plage et qu'il propose le butin à ces gens. Non seulement il n'y a pas plus sexy, mais c'est un notable, le pirate, là-bas. C'est quelqu'un de hardi, c'est quelqu'un qui est dans la reconquête d'une image nationale. C'est quelqu'un comme ça qui revendique une appartenance à un monde, alors que sinon il y a une espèce comme ça de laisser-aller général qui caractérise même le pouvoir central, complètement à la merci de la volonté des pays occidentaux. Là, les pirates sont les gens qui, au Puntland, veulent faire scission, constituer un État à part entière, comme le Somaliland un petit peu plus haut, sans être pour autant reconnu par la communauté internationale. Et puis il y a le Jubaland, la région qui m'intéresse
dans ce roman. Les sables du Jubaland.
Qui est encore, c'est une espèce de zone, c'est une zone utopique, c'est rien, il n'y a pas de points cardinaux, il n'y a que dalle, il y a juste ces jeunes qui ne savent absolument pas de quoi demain sera fait.
Et c'est marrant parce que là, dans votre livre d'ailleurs on le voit, parce qu'il y en a un, comme je disais tout à l'heure, c'est Rouzou, qui va monter, qui va essayer de s'échapper, gagner la France, et alors il faut payer le passeur et c'est $600. Un passeur. C'est marrant, une tête de blanc, c'est $1 million et $600 pour passer, traverser, essayer de remonter sur l'Europe.
Et le plus souvent, c'est une espèce de passage en enfer.
Ouais.
Parce que la plupart des passeurs sont des forbans qui prennent l'argent, qui embarquent leurs clients sur des chalands et ces chalands éventuellement coulent au large ou bien on pousse à la mer tous ceux pour qu'ils n'atteignent jamais le Yémen. Et c'est, bien entendu, ça se passe encore aujourd'hui.
C'est vrai que ça ferait un bon scénar de film. On vous l'a dit ou pas ?
Je m'en rends pas compte, mais j'écris, chaque fois que j'écris, j'essaye d'avoir
images viennent.
Oui, complètement. J'essaie d'avoir des images en tête, d'être dans la peau des personnages. Donc, voilà.
Ça fait une très, très belle histoire à filmer. C'était très agréable à lire, évidemment. Il y a votre style en plus, Yann Kefelec. Donc, comment dire, c'est du chewing-gum pour les yeux à la lecture. C'est chewing-gum pour les yeux. C'était Andy Warhol, je crois, qui disait ça de certains films.
Pas pour moi, ça sera le rendez-vous.
Mais ça ferait effectivement, c'est un très, très beau sujet de film. C'est nouveau, Yann Kefelec. Qui s'appelle Les Sables du Jubaland, c'est chez Plon Éditeur. Et Yann Kefelec est avec vous, il est votre invité, il fait sa tête dans les étoiles, Yann Kefelec.
La tête dans les étoiles, sur RTL.
Un extrait de film pour Yann Kefelec, votre invité aujourd'hui, de Pascal Thomas, qui s'appelle Les Oiseaux, on en parle après.
Alors qu'est-ce qu'on décide pour Pâques?
On part en Suède, je m'arrange avec Martine.
Moi, je préférerais camper près de chez Martine, on s'emmerderait pas.
Non, non, t'es fou. Ton oncle est toujours d'accord pour te laisser partir.
Ouais, ouais.
Il file toujours du fric.
Ouais, je le vois dimanche.
Bah alors, ça va.
Je sais pas s'il va me donner assez.
Écoute, y a pas de problème. On rabiote sur le train. On dit qu'on le prend et on y va en stop. Moi, je vais faire le tour de la famille, y aura assez de fric. Et puis, dis bien que c'est pour perfectionner ton anglais.
La Suède?
Bah ouais. Moi, c'est ce que je vais leur dire. Ils parlent tous anglais là-bas.
Et Martine, qu'est-ce qu'elle va dire?
Je m'en fous, je sors avec elle tous les dimanches. Je veux pas continuer pour les vacances. J'ai envie de baiser une autre fille, merde.
Yann Kefelek, le mot Suède a été prononcé dans cet extrait du film de Pascal
Thomas.
Oui,
j'ai
entendu, oui. Et c'est un voyage en Suède. Votre père avait été prof de lettres, a été prof de lettres, que vous vous êtes séparé d'une institutrice dont vous étiez fou amoureux. Résumé, vous avez 5 ans, qu'est-ce qui se passe?
J'ai 5 ans, j'imagine que si je suis fou de cette institutrice, elle est folle de moi. Pour moi, la vie est bien faite. En plus, je ne cesse de me dévisser le cou pour essayer de regarder. N'imaginons point qu'elle puisse... Voilà, j'essaye de la regarder. Et finalement, elle est invitée à dîner chez moi par mes parents, qui n'imaginent pas l'amour fou et définitif que je lui porte. Et là, elle vient avec son mari. Donc, je comprends que voilà, c'est terminé. Je n'épouserai jamais cette institutrice. C'est mon grand désespoir de jeunesse. Le lendemain, nous partons pour la Suède avec mon père. Je pleure toute la nuit dans un wagon-lit. Et j'explique à ma mère que, voilà, que ma vie s'achève là.
Voilà, c'est comme ça. Mais il a écrit cette lettre d'amour quand même à 5 ans à son institutrice. J'adore ça. Vous l'avez encore cette lettre ou pas? Non, elle a disparu.
Elle doit être quelque part dans les archives familiales. Mais moi, personnellement, je ne l'ai plus. Mais elle existe certainement.
Jacqueline, c'est
Yann. Tout à fait. Jacqueline, si tu m'entends, n'oublie pas qu'à 5 ans, j'étais fou de toi.
J'aime beaucoup ça. Ça s'appelait Jacqueline, la maîtresse d'école. De la maternelle au lycée, d'ailleurs, Yann Kefelek, vous dites que vous avez détesté les rentrées scolaires pour la bonne et simple raison. Et nous avons dit que nous allions en parler cet après-midi, que vous quittiez votre Bretagne. C'était le moment de rupture.
Ah, totalement, ça c'était horrible. Je quittais cette Bretagne où il fait beau, où le temps est puissant, où la mer monte, descend. Où vraiment,
la mer vit.
Où on a un sentiment d'infini et de lointain. C'est-à-dire quand on sent bien encore aujourd'hui, quand on va en train à Brest, on sent très bien qu'à un moment, on entre dans cette presqu'île armoricaine et qu'on est extrêmement loin. Plus loin même que le kilométrage ne le traduit. Et
ouais, le bout de terre. Hein,
le bout de terre, c'est Finistère.
Finistère.
Et j'étais parfaitement conscient de cette dimension bretonne lorsque j'étais enfant. Et quand il fallait rebrousser chemin et revenir sur Paris, c'était un véritable désespoir. Je quittais cette région toute bleue et grise en même temps, très très lumineuse et très forte, où l'on respire un air sucré. Et pour retrouver comme ça cette capitale qui... Des gaz brûlés, de la grisaille et de la tristesse scolaire.
Moi, j'aime bien l'ambassadeur qui est Yann Kefelek de la Bretagne. Ça me fait plaisir. C'est le Breton, l'ambassadeur formidable avec Yann. Vous y vivez en Bretagne, hein, souvent?
J'y vis de toute façon, j'y vis sentimentalement en permanence.
Voilà.
Et j'y retourne le plus souvent possible.
Kefelek est votre invité jusqu'à 16h.
La tête dans les étoiles. Sur RTL.
Yann Kefelek, on va faire un plus tôt, tous les deux. C'est genre, vous êtes plutôt enfant de cœur ou cœur d'artichaut?
Je suis enfant d'artichaut. Non, je suis... Oui.
Vous avez été enfant de cœur?
J'ai été enfant de cœur, mais j'ai un cœur d'artichaut.
Ça, c'est bien aussi. Vous vous souvenez comment vous avez été renvoyé du confessionnal?
Non.
Vous voulez que je le raconte? Oui. Vous avez honte ou pas?
Non.
Vous avez mis une poule dans le confessionnal?
Ah oui, non, c'était dans le tabernacle.
Dans le tabernacle, pardon.
J'étais enfant de cœur. J'étais pas seul. On était deux. Il y avait celui de gauche et celui de droite. Donc, on avait mis une poule vivante dans le tabernacle. Et lorsque le prêtre, l'officiant, a ouvert le tabernacle pour. Voilà, la poule est sortie en poussant des cris de poule. Et bien sûr, nous avons été renvoyés.
Vous êtes croyant? Vous allez à la messe régulièrement?
Ah oui, oui, je suis de plus en plus croyant.
De plus en plus.
Oui, bien sûr. Et l'anecdote de la poule n'a rien à voir avec ça.
D'accord, merci. Tiens, je salue Loïc Perron, qui est un camarade à vous, qui est derrière.
Oui,
pardonnez-moi,
c'est
en direct.
Extrêmement admiratif. Je suis obligé de me retourner, c'est à chaque fois.
Il est avec Alain Duhaud, notre maître classique. Loïc Perron, bonjour, bienvenue.
C'est pour ça que j'arrive.
Voilà, on parlait de Bretagne. T'arrives à point nommé, Loïc Perron, on était en pleine Bretagne. Voilà.
Une bise, je ne vous dérange pas plus longtemps.
Mais bienvenue, Loïc. Est-ce que la voile va bien, Loïc Perron?
Elle va, elle est ensoleillée, il fait très beau. Allez sur les plages, tout va bien.
Voilà, ouais. Il fait beau du côté de Pornichet, de la Baule.
Toujours, et voilà. De Noirmoutier aussi.
Et de Noirmoutier aussi, t'as raison.
Et de la Bérelle d'Hutte aussi, de la Bérelle d'Hutte aussi.
Et voilà.
Aussi.
Et regardez, Alain Duhaud, voilà. C'est en direct, c'est à RTL. Quand Loïc Perron est là, évidemment, qui est ce marin qu'on aime tant. On aime avoir un petit mot de notre Loïc Perron, qui est beau comme un dieu d'ailleurs, qui est bronzé, qui est nickel. Le gars est affûté, il est parfait. Le gars va partir en mer, je le sens. Salut Loïc Perron. C'est la vraie vie, ça, hein, Yann Kefelek, pardonnez-moi, mais on ne pouvait pas faire autrement, ni vous ni moi, que d'accueillir Loïc.
C'est un bonheur.
Je reviens à mon plus tôt. Vous êtes plutôt Jaguar ou Ferrari?
Jaguar.
Oui. Alors, vous n'avez pas de permis de conduire, dites
non. Non, non, mais j'ai eu deux Jaguars dans ma vie, et que j'ai conduit d'ailleurs, mais dans des conditions abominables. Une fois, j'ai sorti une Jaguar dont j'avais fait refaire la peinture, je l'ai sortie d'un garage, je l'ai raflée dans la spirale, je ne suis jamais remonté au volant d'une voiture.
Voilà, c'était après le Goncourt que vous étiez offert
après
ça.
Après le Goncourt, je faisais un peu n'importe quoi, mais à la fois des choses très bien et des choses un peu farfelues.
C'est marrant parce que le permis de conduire, votre père n'en avait pas non plus.
Non, non.
Hein, c'est ça.
Non, on n'est pas très. On n'aime pas trop les voitures dans la famille, mais l'objet est absolument fascinant. Moi, je suis en admiration devant les belles voitures. Mais en revanche, je considère que l'automobile est un fléau à l'échelle de la planète aujourd'hui.
Voilà. Par contre, vous pouvez leur donner un bateau, ils savent faire, je peux vous dire.
Ouais. Moins bien que Loïc Perron, tout de même. À tout seigneur, tout honneur.
Vous êtes plutôt ponctuation ou ponctualité ?
Je suis ni ponctuation ni ponctualité. Je me méfie de plus en plus des phrases corsetées par des virgules et des points. J'essaye de laisser la respiration du lecteur installer son propre rythme. Quant à la ponctualité, je m'abstiendrai d'en parler, même si je suis arrivé avec un quart d'heure d'avance.
C'est vrai. Je vous confirme que Yann Kefelec était là 15 minutes avant le début de l'émission. Et ça, comment vous dire ? Non, mais ça va mieux. Vous étiez chronopathe. Oui, ça va mieux.
Ouais, ça va beaucoup mieux.
Ouais, hein, ça s'arrange quand même.
Ouais. Bah, mon épouse veille au gras. Mais
vous faites des efforts. Vous vous souvenez de votre proverbe sénégalais ? C'est vous qui me l'avez dit un jour ici.
Oui, mais il est toujours aussi beau, ce proverbe sénégalais, même s'il est moins vrai pour moi. Vous, les Blancs, vous avez l'heure. Nous, les Bretons, nous, les Noirs, nous avons le temps.
Je dis lapsus pour les Bretons. Nous, les Bretons, nous avons le temps. C'est bien. Plus utile, c'est comme ça aussi.
Mais c'est un peu vrai, parce que le Breton n'est pas très ponctuel. Le Breton est assez africain de ce côté-là.
Vous êtes plutôt tagada ou soin-de-soin ?
Je suis très fraise tagada, voilà. Mais s'il y avait des fraises soin-de-soin, je n'hésiterais pas.
Vous aimez ça, vous aimez les bonbons en général, c'est ça?
Ah oui, ça c'est un peu.
Vous êtes grignoteur, et pourtant vous êtes très affûté.
Je fais du sport, Laurent. Si j'en faisais pas avec tous les bonbons que je mange et les repas pantagruéliques que l'on est amené à faire dans ce métier, c'est... Non, oui, je fais attention.
Ah oui, je peux vous dire que le gars est équipé. Alors une petite rapide, vous voulez...
Mais calzone tagada aussi, j'aime beaucoup.
Calzone tagada. Vous êtes plutôt au feu de l'amour ou au feu de la rampe?
À les feux de l'amour, fut une époque où je ne pouvais pas me passer dans l'épisode des feux de l'amour. Je faisais partie de la famille, franchement, c'était horrible.
Ce type regardait les feux de l'amour et était capable de quitter un déjeuner pour aller voir les feux de l'amour.
Absolument, oui. J'arrivais en vacances, je prenais des horaires de train bien spéciaux pour arriver à l'heure pour mon épisode des feux de l'amour.
C'est Yann Kefelec, votre invité cet après-midi. On évoque évidemment son nouveau roman Les Sables du Jubaland, paru chez Plon. Il est avec nous, il fait sa tête dans les étoiles jusqu'à 16h.
La tête dans les étoiles. Sur RTL.
Un extrait de film Les Acteurs avec Bertrand Blier et Claude Brasseur. Écoutez.
Enfin, bien. De toute façon, qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette traînée ?
Coupé ! Quel est le con qui a oublié d'éteindre son portable ?
Je crois que c'est moi.
Ben, réponds.
Ouais, c'est mon père.
Présente-lui mes respects.
L'eau, papa ? Alors ? Il est avec un copain qui voudrait te parler.
Allô ? Comment ça va, papa ? Ah bah oui, forcément. Oui. Bah, moi, ça va pas mal, là. Je suis en train de tourner un film. Bah, c'est un film sur les acteurs. Bah, évidemment que je pense à toi. Tous les jours, je pense à toi. Je vais même te dire un truc. Plus les jours passent et plus tu me manques.
Qu'est-ce qu'elle est belle, cette réflexion de Bertrand Blier qui, dans un coup de fil fictif, dans ce film Les Acteurs, parle avec son père Bernard Blier. Qu'est-ce que c'est joli de le dire, dans les mots dits, là, justement, à travers ce film, c'est formidable. Et alors, vous étiez loin, Yann Kefelec, d'avoir les relations qu'a Bertrand Blier avec son père Bernard, là, dans le film, avec votre père. C'était compliqué. Hein.
On a eu une vie amoureuse assez passionnelle, en effet, mon père et moi. C'est-à-dire, au départ, c'était pas terrible. Moi, j'étais en admiration devant lui, je le trouvais beau, je voulais être avec lui tout le temps, qui était toujours en voyage. Et lorsqu'il était là, il s'intéressait davantage à mes frères et sœurs qu'à moi-même. Mais par la suite, beaucoup plus tard, nos relations se sont normalisées, voire harmonisées, et j'ai pu enfin lui faire part de toute cette admiration et de tout cet amour que j'avais pour lui à l'époque où ça ne l'intéressait pas trop.
Oui, c'est ça. Et il n'avait pas envie que vous deveniez écrivain, auteur, comme lui ?
Non, non, on peut pas dire qu'il... Non, non, franchement, non. Il n'avait pas envie. Comme beaucoup de jeunes, d'adolescents, j'avais des pulsions artistiques. C'est-à-dire, je dessinais, je faisais des caricatures qui me procuraient quelques ennuis. Parce que je représentais mes profs féminins ou masculins en train de dans leur baignoire, donc j'ai été renvoyé d'un certain
nombre. Jacqueline, la maîtresse dans sa baignoire.
Ah là là, Jacqueline dans sa baignoire.
Je reviens à Jacqueline.
Donc, ne faites pas rêver. Et, Et évidemment, donc, pour mon père, il voulait que je sois un écolier pur et dur, un excellent lycéen, et écrivain certainement pas, dessinateur pas du tout. Il avait tendance à déchirer ce que je faisais.
Et voilà. Et la seule fois où il vous a pris dans ses bras, c'était pour vous faire traverser une rivière.
Quelle mémoire, ça c'est formidable, quelle documentation. En effet, un jour, la mer montait, on était séparés comme ça de la rive en face par cette rivière de la marée montante. Et je sais pas, je devais avoir 3 ou 4 ans, et là j'avais été dans les bras de mon père, j'avais pu respirer tout à loisir sa nuque, sentir sa force, sa musculature. Il n'était pas particulièrement musclé, mais pour moi c'était un surhomme à ce moment-là, et je suis encore dans ses bras lorsque je vous en parle, je ressens encore cette impression.
Oui, vous dites que j'ai pas oublié son odeur.
Ah non, il avait une excellente odeur, il avait une odeur justement bretonne, une odeur d'algues, une odeur un peu sucrée, c'était une belle odeur de peau.
J'aime bien que tu parles de sa Bretagne comme ça. Il avait aussi des yeux bleus vertigineux, vous dites. C'est étonnant de parler de ça, bleu vertigineux.
Ouais, parce que j'ai jamais réussi vraiment à définir la couleur de ses yeux. Moi, j'aurais voulu avoir les mêmes yeux que lui. C'est-à-dire, quand on regardait dans ses yeux, on avait la même impression que lorsqu'on regarde la mer, l'horizon marin, et qu'on se sent que l'appel de la mer, voilà, vous entraîne au plus loin. C'est-à-dire, rien qu'avec ce regard, on avait l'impression d'avoir tout un océan sous les yeux.
Vous avez un regard aussi, il est vert le vôtre, mais
il est vert. Hein, ouais, tu vois, il est vert.
Soutenu aussi.
Oui, pas tant mieux.
C'est Yann Kefelec, votre invité.
RTL. La tête dans les étoiles, Laurent Boyer.
Avec Yann Kefelec, votre invité aujourd'hui, le nouveau roman de Yann, Les Sables du Jubaland, que nous évoquions tout à l'heure, ce long voyage du côté, ce long périple du côté de la Somalie. Yann, on va faire un oui-non, c'est-à-dire que je vais vous poser 5 questions auxquelles vous allez répondre par oui ou par non. Ensuite, vous pourrez commenter vos réponses.
D'accord.
Voici la première affirmation. Avez-vous déjà demandé pardon à quelqu'un, oui ou non?
Oui.
Pensez-vous que la femme est l'avenir de l'homme?
Oui.
Avez-vous déjà été tenté par la politique?
Non.
Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez pleuré et pourquoi?
Oui.
Savez-vous déjà ce que vous aimeriez que Dieu vous dise en arrivant devant lui?
Oui.
Les commentaires évidemment de Yann Kefelec dans un instant.
La tête dans les étoiles sur RTL.
Le commentaire de Mignon de Yann Kefelec. Avez-vous déjà demandé pardon à quelqu'un? Yann m'avait dit oui.
Oui.
D'accord. C'est genre oui, et alors?
Non, c'est un détail domestique un peu. C'est quand je soupçonnais un de mes fils, mon fils Alan, de m'avoir piqué mon plus beau t-shirt noir, absolument sublime. Et je l'ai retrouvé. Et je l'ai retrouvé dans mes affaires, donc je lui ai demandé pardon. Mais j'avais fait tout un fois.
Vous êtes micromaniaque aussi, alors?
Non,
c'est mon t-shirt noir, où il est?
C'est pas ça, oui. Mais,
hein,
ouais,
c'est toi qui me l'as piqué encore? Ouais. Mais non, papa, je te jure. Si, je suis sûr que c'est toi. Je t'ai vu avec l'autre fois.
Écoute, Alan, ne me raconte pas d'histoire, tu sais, c'est voilà.
Oui, d'accord, c'est bien. Pensez-vous que la femme est l'avenir de l'homme? Oui.
Oui, je pense que la femme est l'avenir. Je pense aussi que l'homme est l'avenir de la femme. Mais il est certain que j'ai une préférence pour l'être achevé qu'est la femme, et que je considère que l'homme est un être inachevé, que sans la femme, il est perdu.
Voilà, c'était le brouillon, quoi. Et après, il y a eu le parfait, ce qui était la femme.
Il y a un petit peu de ça.
Avez-vous déjà été tenté par la politique? Vous m'avez dit non, Yann Kefelec.
Non, parce que je m'accomplis pleinement dans mon évaluation critique de la société par le livre et par l'écriture. Et je pense qu'un romancier ne peut pas boucler un roman comme Les Sables du Jubaland sans être un homme politique qui est passé par un autre discours.
Ah
oui, tout à fait.
C'est ce que vous faites à travers ce livre. C'est ce qui est en filigrane. Hein.
Ah oui, tout
C'est-à-dire qu'il y a un engagement de votre part, évidemment, la Somalie, mais pas seulement, ça va plus loin, quoi.
Non, mais c'est un engagement, il n'y a pas de doute.
Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez pleuré et pourquoi? Oui.
Même chose, j'étais encore obligé de parler de mes fils. Quand mon fils Malo s'est cassé les cinq doigts du pied gauche l'an dernier, en sautant d'un scooter directement sur une table en marbre située 5 mètres en contrebas, que j'ai appris ça par téléphone à 1000 km, ce beau gosse comme ça, dont le pied gauche était embouilli, ça m'a bouleversé, ça m'a fait pleurer. Son pied va bien maintenant, il vient d'avoir le bac, tout va bien.
Ah oui, en plus, il y avait bac, oui, vous avez. Ah, il l'a eu?
Il l'a eu, oui, parfaitement.
Vous avez fait, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est, l'an dernier, c'était le pied, cette année, c'est le pied.
Savez-vous déjà ce que vous aimeriez que Dieu vous dise en arrivant devant lui?
Eh bien, on n'a plus qu'à ressusciter.
Ah bien, ou on veut pas de toi, redescend. Il est avec vous, Yann Kefelec, c'est votre invité sur RTL.
La tête dans les étoiles, sur RTL.
Un extrait de film de René Clément pour Yann Kefelec, c'est Jeux interdits, avec Georges Poujouli et Brigitte Fosset.
T'as fini d'embrasser tout le monde?
Tu veux que je t'embrasse?
T'es pas gentille.
Pourquoi?
Ce que tu m'as dit pour la croix du curé.
Bah, tu me l'as pas donné.
J'ai essayé, j'ai reçu des tartes. Ici, les tartes. Embrasse-moi dessus. Mieux que ça.
J'ai dit, au lit. Fini de se sucer la pomme.
Je viens.
Moi, je connais un endroit où il y en a des croix.
Où ça?
Au cimetière.
Oh, bah, t'as pas peur.
Pourquoi?
Et s'il est mort, il me tire par les pieds.
Le mot a été prononcé, Yann Kefelec. C'est pas d'une grande joyeuseté, c'est le mot cimetière. Pourquoi? Parce que le jour où vous avez reçu le Brie Goncourt pour les Noces Barbares, c'était le 18 novembre 1985, vous êtes allé au cimetière de Montrouge.
Tout à fait.
Le jour même.
J'avais l'impression que j'en avais rien à fiche de ce Brie Goncourt, que voilà, j'étais sur une liste et que ça ne me concernait que d'extrêmement loin. Et le matin, en me levant, j'ai eu une impression différente. J'ai eu le sentiment que j'avais rendez-vous avec mon destin. Et brusquement, le souvenir de ma mère que j'avais perdue en 1970 est remonté. Et j'ignore pourquoi j'ai eu le besoin d'aller m'incliner sur sa tombe où je n'étais jamais allé depuis ses obsèques. Et bien, m'en a pris, puisque à 13h, donc, j'ai obtenu le prix Goncourt.
Et au mois de mai dernier, d'ailleurs, vous avez fait paraître le premier roman d'une trilogie qui est intitulé « Le piano de ma mère ».
Ah, c'est pas moi qui l'ai fait paraître. Ce livre est sorti bien malgré moi aux éditions de l'Archipel. J'aurais voulu le mener aussi loin que j'avais mené ma première femme, un ouvrage qui exalte aussi la figure maternelle. Ce piano de ma mère, je n'en aime pas beaucoup le titre. Je trouve que ça rappelle un peu trop la gloire de mon père de Pagnol. Et ce livre, je le reprendrai, je le referai, je l'achèverai, je lui donnerai le visage qu'il doit avoir.
Vous aviez de l'admiration pour votre maman?
J'avais beaucoup plus que de l'admiration pour elle. Mais j'avais aussi de l'admiration parce que c'était quelqu'un qu'on ne prenait pas la peine d'admirer, parce que c'était quelqu'un qui était totalement dévoué à sa famille, aux tâches domestiques, aux tâches scolaires. C'était quelqu'un qui vivait dans l'ombre de ceux dont elle souhaitait qu'il réussisse. Ça commençait par mon père, puisque s'il n'y avait pas eu ma mère, il est certain que la carrière de mon père ne se serait pas déroulée sous les mêmes auspices. Et il est sûr que j'étais dans l'adoration de ma mère, dont je continue à penser aujourd'hui, et je ne suis pas le seul, ma sœur est de cet avis également, qu'elle n'avait pas grand défaut.
Oui, et elle écrivait des nouvelles, votre maman?
Ma mère aurait pu être écrivain, c'était quelqu'un qui s'exprimait admirablement bien, qui avait peut-être autant de talent que mon père, simplement qui n'en faisait pas usage, qui considérait que c'était lui le grand homme, l'esprit littéraire de la maison, et que c'était à lui de s'accomplir et d'être connu.
Vous parliez de votre sœur à l'instant, qui est concertiste.
Ma sœur, Anne Kefelec, que j'embrasse, que j'admire, que je salue, et qui m'a aidé moi aussi dans ma carrière d'écrivain, car petit, à une époque où seule ma mère croyait en moi, elle y croyait aussi, elle lisait mes poèmes, mes nouvelles, mes premiers textes, et voilà, il n'avait pas de mots trop élogieux pour saluer mes premiers pas en littérature.
Mais c'est une grande concertiste, hein, Anne, votre sœur.
Immense, une grande pianiste.
Une grande pianiste. Elle vous a initié à la musique? Vous appréciez sa musique?
Si vous voulez, chez nous, tout le monde était musicien. Mon père est un improvisateur de génie au piano. Ma mère jouait du piano comme elle respirait. Et quand on ne pouvait pas entrer dans cet appartement sans entendre de la musique, aux grandes dames des voisins d'ailleurs, qui savaient qu'à partir du troisième étage, on habitait au sixième, à partir du troisième étage, eh bien, il n'était plus question, on ne s'entendait plus, c'était la voix des Kefelec, cette voix de piano qui résonnait.
Et vous en faites vous-même du piano ou pas?
Il paraît que j'ai été pas mauvais, me dit ma sœur, que je jouais l'Allegro de Barbaro de Béla Bartok, mais franchement, j'étais de loin le plus mauvais de la famille.
Yann Kefelec, votre invité.
RTL, la tête dans les étoiles, Laurent Boyer.
Avec Yann Kefelec. On va faire un petit plus tôt encore, Yann Kefelec. Vous êtes plutôt Belle-Île en mer ou Marie Galante?
Les deux, forcément.
Mais Belle-Île en mer, oui, ça les deux, les îles, ça je comprends.
Non, Belle-Île en mer.
Oui, parce qu'il y a la célèbre directrice littéraire Françoise Verny, qui, lorsqu'elle vous avait rencontré à Belle-Île en mer...
Oui, tout à fait.
Vous avez dit, toi, chéri,
tu as une gueule d'écrivain.
Et c'est impossible de citer la phrase sans limiter, parce que on perd tout le sel. Et j'aimais tellement cette femme que j'arrivais à la contrefaire. Voilà.
J'étais aussi un personnage incroyable, hein, Françoise Verny, qui a fait beaucoup pour l'édition française. Et donc toi, chérie, tu as une tête d'écrivain, ça c'est quand même extraordinaire.
Une gueule d'écrivain.
Fais-moi un roman. Bon, ouais, vous y êtes mis un jour, quoi.
Non, je l'avais déjà fait, le roman, et il était inachevé. Mais je me suis promis, après la soirée interminable que nous avons passée dans son hôtel, à boire du champagne rosé et à manger des langoustes non moins rosées, je m'étais promis de lui apporter ce roman, Le Charme Noir.
Vous êtes plutôt oiseau du large ou oiseau en cage?
Non, oiseau du large.
Oiseau du large, puis en plus, c'est ce que signifie votre nom.
Tout à fait.
Kefelec. Ouais, en breton, c'est oiseau du large. Tout à fait. Vous êtes plutôt Abbé Pierre ou Pierre Bachelet ?
Je suis Abbé Pierre Bachelet. Pierre Bachelet, forcément, j'ai écrit... j'ai l'air de jouer sur les mots en répondant, parce que c'est difficile, mais j'ai écrit un album, La ville ainsi soit-il, pour Pierre Bachelet, homme chanteur qui a aujourd'hui disparu, auquel je conserve une affection immense, et j'ai l'impression qu'il pourrait entrer dans la pièce et blaguer avec nous. C'est un gigantesque musicien.
La ville ainsi soit-il.
Oh, la ville, ainsi soit-il, a bouffé ma maison. Oh, la ville, ainsi soit-il, a perdu ma raison. C'est trop con. Là-bas, c'est des rafios, c'est des boîtes à naufrages qui n'aiment pas beaucoup l'eau, qui partent pas en voyage. C'est des bars à gogo où le diable a la rage. Et plus ça d'illusions pour claquer ton pognon.
La ville ainsi soit-il, c'était en 1995, chanson de Pierre Bachelet, écrite par Yann Kefelec.
Ouais, tout à fait.
Pour Bachelet, qu'on vient d'écouter à l'instant. D'ailleurs, il y a un best-of qui est sorti de Pierre Bachelet il y a 6 mois que je vous conseille. Avec beaucoup de titres de Pierre, des chansons formidables. Vous êtes plutôt papier de riz ou papier d'Arménie, Yann Kefelec ?
Je suis papier de soie, papier de santal,
voilà.
Et j'écris en effet sur un papier tout à fait singulier qui vient de Chine à bord d'un cargo rouge une fois par mois et qui provient de la plus vieille papeterie de Chine installée sur les berges du fleuve Amour et uniquement fabriquée par des femmes.
C'est incroyable. Mais on le trouve où ce papier ? Parce que on le trouve en France, visiblement, puisque vous écrivez dessus.
Vous savez que grâce à vous, j'ai retrouvé un de ces cahiers un jour où je pensais ne plus jamais en trouver, parce que la boutique...
On avait fait un appel ici. Hein.
On avait fait un appel et s'est manifesté, en effet, quelqu'un d'une... Mais je ne dirais pas... Non, si, je peux le dire quand même. Parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas partager ce magnifique papier avec d'autres. Quelqu'un du comptoir des écritures avait téléphoné pour dire « On en trouve toujours, c'est chez nous, vous pourrez désormais vous les procurer ». Et je ne suis pas, justement, grâce à ça, je ne suis pas en panne de papier.
Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, ce papier ?
Ce papier, il est à la fois lisse et pas trop. Il a une accroche très particulière. Il a une odeur, il a un contact. Sous la paume, il est extrêmement agréable. Il fait chaud, on ne s'en rend absolument pas compte. Et il n'est pas trop blanc. J'ai horreur d'écrire sur du papier blanc, ça me fait peur. Et voilà.
C'est marrant, ce rapport sensuel à l'écriture, hein. Il est doux sous la peau, un peu rugueux. Il y a une façon d'en parler
qui est
étonnante.
C'est une peau, ce papier est une peau. On a l'impression d'écrire sur de la peau, en effet.
Très joli. Ça s'appelle du papier de santal. C'est
tout
ça, qui est extrêmement rare à trouver, fait par des femmes. C'est au bord du fleuve Amour. Non, mais déjà, on est parti, quoi. Déjà, c'est un roman, c'est une nouvelle. Rien que le papier, c'est une nouvelle.
Il est acheminé par cargo une fois par an.
Oui, ça, c'est formidable. Rien que le papier, c'est une histoire. Vous êtes plutôt patin à roulette ou patin à glace ?
Patin à roulette.
Champion de patin roulette.
À Paris, dans les années 60, oui. En effet, oui, à la porte de Versailles.
Vous avez été champion de patin roulette à Paris, c'est vrai. Maintenant champion de bateau et d'écriture, mais il était champion de patin roulette. C'est Yann Kefelec, votre invité sur RTL.
RTL, la tête dans les étoiles. Laurent Boyer.
Avec Yann Kefelec. Et Yann, alors que vous êtes avec nous dans ce studio à RTL en direct à 15h49, il y aurait un gentleman cambrioleur qui s'est introduit chez vous. Il a même pas peur, il me regarde, même pas peur. Ce gentleman cambrioleur, il s'appelle Camille Saferis. Bonjour Camille. Oh bah tiens.
Bonjour.
Vous avez raison de pas avoir peur, il va pas vous faire mal aujourd'hui. Mon gentleman cambrioleur, je l'ai perdu. Le pauvre, il est au téléphone. Logiquement, il serait chez vous, je sais pas, je l'ai perdu, il doit être quelque part.
Ça y est, je vous
ah, il est là. Comment ça va Camille ?
Pas du tout de retour, bonjour. Oui, bonjour Yann, bonjour Laurent. Je suis chez vous Yann.
Ah, formidable. Alors, ça, si vous ne voudriez pas donner un petit coup au ménage, là.
Oui, sinon... alors voilà, justement, c'était mon intention.
C'est bien. Vous dites que c'est un peu le bazar chez Kefelec, chez Yann.
Oh, ça pourrait être pire, hein. Il y a beaucoup de livres, mais c'est assez rangé, comme dans l'ensemble, non ?
Non, c'est vrai. C'était une boutade, c'est plutôt rangé.
On est dans un appartement ancien, très calme, près de la rue Lafayette, je crois que c'est le 9e arrondissement.
On a
sur le balcon une vue sur l'immeuble d'en face. Il y a une double exposition. Je vous le disais, il y a beaucoup de livres, il y a des paysages, des romans. Et en entrant, il y a une commode sur la droite avec dessus un vieux livre sur la Bretagne.
C'est quoi cette blague ?
Très ancien, je pense, puisque même la rayure n'est plus en état.
Qu'est-ce que c'est, ce livre sur la Bretagne, Yann ?
Non, mais c'est extravagant, cette histoire. Il est vraiment chez vous.
Mais c'est quoi ce bouquin sur la Bretagne ? Peut-être a-t-il une connotation particulière ou affective ?
Il est extraordinaire parce qu'il est extrêmement ancien. Il a près de 200 ans, ce bouquin. Et il retrace un peu tous les métiers de Bretagne dans le temps. C'est-à-dire, il est absolument introuvable, ce livre. C'est donc, beau. N'hésitez pas à le cambrioler et vous en trouverez un bon prix.
Ah ben non, je vous le laisse, il est introuvable.
Qu'est-ce alors, que vous voyez d'autre ?
Dans la salle à manger, il y a une grande bibliothèque avec la Pléiade, etc. Sur la table du salon, il y a aussi un livre de photos et je voudrais que vous nous en parliez. C'est le grand livre de Plisson qui s'appelle Étrave.
Philippe Plisson, grand ami, immense artiste, grand artiste photographe. C'est aussi grand navigateur. C'est une espèce de. Il a ce côté Robur le Conquérant. Il est à la fois photographe, mais en même temps, il voyage en hélicoptère, en bateau, et je vais régulièrement faire des virées avec lui.
Et là, Étrave, c'est toutes les étraves de bateau, non ?
Étrave, il a compris la poésie hallucinante de ces formes de bateaux qui sont de véritables sculptures, et il s'est intéressé à toutes les étraves de tous les navires, à la fois neufs, anciens, celles des derniers Dundee de la tempête de 1930, et y compris celles des pétroliers actuels ou des sous-marins. Enfin, c'est très, très beau.
Il y a Far West aussi, dans le genre, aux éditions de La Martinière. Enfin, oui. Il y a beaucoup de livres comme ça qui sont sublimes. Les photos de Plisson, c'est vrai que c'est extraordinaire.
Il a photographié son livre La Mer, que j'ai eu la chance et l'honneur de préfacer. Son livre La Mer, vraiment, montre des paysages de mer comme on ne les voit que dans Océan de Jacques Perrin, autre film magnifique sur la beauté de l'élément marin.
Qu'est-ce que vous voyez d'autre chez Yann Kefelec ?
Il y a une autre photo de la mer, mais là je crois que ça doit être votre mère, peut-être, parce que c'est une photo dans un très joli cadre, en noir et blanc, un assez grand cadre. Elle est très souriante, donc c'est votre maman, c'est ça ?
Elle est belle, hein ? Oui, c'est ma mère, jeune fille, et je ne me sépare jamais de cette photo, bien entendu.
Très souriante, avec une petite robe toilée blanche sur l'épaule, là, comme ça. Et puis, alors, il y a un objet de décoration. Ça, je ne sais pas du tout ce que ça doit venir d'un bateau. C'est en bois ancien. C'est posé sur le radiateur. Et puis, alors, il y a marqué, c'est gravé dedans.
Il y a marqué.
Dieu protège Goéland.
Dieu protège le Goéland.
Voilà.
Ça, c'est une pièce de bateau, effectivement, qui appartenait à l'un de mes oncles. C'est un objet. Extrait d'un très, très vieux bateau en bois qui doit remonter au 19e siècle. Et j'aime énormément cette phrase « Dieu protège le goéland ». On a l'impression donc que dans le règne des créatures, le goéland a autant d'importance au regard de Dieu que l'être humain.
Ça, c'est vraiment très joli. C'est vraiment une belle pièce.
Que et voyez-vous d'autre, Camille ?
Alors, il y a posé sur un tabouret de bateau, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de trucs de bateau, il faut le dire. Beaucoup de choses en métal.
Dans cette pièce.
Dans une ambiance
pièce.
Vraiment de... Voilà, on sait qu'on est chez vous. Et alors, j'ai trouvé sur ce tabouret un livre rouge avec une reliure en cuir. Et quand on l'ouvre, c'est un vieux papier épais avec des bords en zigzag, avec du texte tapé et puis des dessins à la plume et au crayon. Et c'est signé Henri Kefelec.
Et c'est un ouvrage de mon père, tout à fait singulier, magnifique, sur un sujet un peu rare, sur les manoirs de Bretagne. Et arriver à pondre un livre de 700-800 pages sur un sujet pareil, ça en dit long sur la puissance d'écriture de cet homme que j'embrasse là où il est.
Très productif. C'est vrai que 700 pages sur les manoirs de Bretagne, il faut être accroché quand même, c'est balèze.
Très bel ouvrage aussi, ouais.
Un dernier élément, Camille, chez Yann Kefelec.
Alors, il y a plein de choses, voilà. Il y a ce beau, très beau fauteuil bleu qui est là, qui est d'un bleu très étonnant pour un fauteuil comme ça. Et puis, dans la chambre, je suis quand même allé faire un tour de votre chambre, j'ai vu que vous aviez une couette bleue. À côté du lit, vous lisez Courrier International, là, je révèle un petit peu. Et puis, il y a une paire de chaussures de femmes, mais on n'en dira pas plus, ce sont des ballerines beiges
Tout à fait, ce sont les chaussures de mon épouse, tout simplement.
Ce sont mes chaussures le soir.
Femme.
C'est mes pointes le soir. Kefelec sur pointe.
ce sont les chaussures de femmes, on n'en dira pas plus. Extraordinaire.
Merci Camille Saffiris, fermez bien la porte dans le 9e, chez Kefelec, faites attention quand même. C'était Camille Saffiris qui s'était introduit chez notre invité, chez Yann Kefelec.
14h30, 16h, votre rendez-vous avec les stars, la tête dans les étoiles, Laurent Boyer sur RTL.
Et notre star aujourd'hui, c'est Yann Kefelec avec un nouveau roman paru chez Plon il y a un petit mois que vous emmènerez en vacances, que vous allez dévorer comme on l'a fait, les sables de Jubaland. Il vous emmène en Somalie, dans ce territoire. Il le disait tout à l'heure, il y a toujours l'écriture de Kefelec, évidemment. Il y a en filigrane une très, très belle histoire d'amour. Je ne vous en dis pas plus, mais aussi un engagement politique à travers ce livre chez Kefelec, le pillage en fait de ces terres somaliennes, et peut-être mieux comprendre ce que font ces pirates dans le golfe d'Aden, parfois avec cette vision que l'on a de la plage, de regarder la mer, les pirates et les cargos passer.
C'est à la fois un livre lointain, mais aussi un livre de proximité, où j'ai voulu retracer les problèmes que connaît aujourd'hui la jeunesse française aujourd'hui, qui manque de rêve, qui se pose des questions. Et ce qui se passe en Somalie se passe mystérieusement aussi chez nous.
Merci beaucoup, Yann, d'avoir été avec nous.
C'est un bonheur.
Embrassez Servane. Madame,
on
l'embrasse.
Je ne manquerai pas. Je le fais très, très régulièrement.
Je compte sur vous, oui, ça, je sais bien. Et puis, bonne Bretagne cet été.
Merci voilà. beaucoup.
Merci à vous.
14h30, 16h, votre rendez-vous avec les stars, la tête dans les étoiles, Laurent Boyer sur RTL.